Bref, là, Barjo au troisième but. Est-ce que c'est réglé, ça, dans ta tête?
Écoute, là, j'ai assez poussé pour que ce gars-là joue tous les jours. Puis là, je le regarde frapper gros circuit de trois points dimanche, ouais, qui a changé complètement l'allure du match.
Au jeu! Deuxième prise, compte complet.
Le balado compte complet est présenté par Don Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeurs intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzeau et Marc Griffin.
Bienvenue à compte complet. Nous sommes rendus déjà au mois de juin. Le tiers de la saison est déjà derrière nous. Alain Huzeau en compagnie de Marc Griffin. Ce qui nous attend aujourd'hui, on va revenir sur probablement la série la plus attendue de ce premier tiers de la saison. Ça vient tout juste de se dérouler entre les Yankees de New York et les Dodgers de Los Angeles. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer sur une série de trois matchs? On aura l'occasion d'en parler. Le Messi est arrivé à Kansas City. Ben oui, on en a parlé, ça fait pas longtemps, donc on en a cruellement besoin. C'est pas une garantie que ça va fonctionner. Ça aussi, on va en parler. Les Mets de New York, une expérience à voir. On a vu ça au Japon, une rotation à 6 lanceurs. Des blessures, encore une fois, là, ce sont des Braves et des Diamondbacks, deux équipes qui avaient de grosses aspirations et qui ne jouent pas pour 500 rendus au mois de juin. Donc, de grosses inquiétudes de ce côté. On va parler aussi des équipes, Marc, de Buffon, pardon, des Buffon. On a eu les White Sox l'année passée, les Rockies cette année, certains qui partent en sachant qu'on va en perdre 100. Ça dit quoi sur le baseball actuel? Et finalement, la semaine des Blue Jays, on a fait ce qu'on avait à faire. La semaine d'Abraham Toro, il a gagné du galon. Et Marc, on va parler de l'aspect mental. On va élaborer un petit peu là-dessus. On a assisté à une scène, moi je n'avais jamais vu ça, un joueur qui en pleure en plein milieu d'un match, après avoir commis trois erreurs, Ronnie Simon, et qui ne fait même plus partie des 40 au moment où on se parle. Tout ça dans ce balado. Et évidemment, il y a aussi des entretiens qui seront disponibles au cours des prochains jours. Là aussi, on vous donnera un peu plus de détails. Marc, Yankees, Dodgers. Les Dodgers qui avaient la chance de balayer cette série-là au cours de la fin de semaine. On a fait subir les Dodgers une première défaite à Max Fried. Et celui qui a maîtrisé finalement l'attaque des Dodgers, ben c'est pas un lanceur qui a... Disons auquel on s'attendait du côté des Yankees de New York, c'est quelqu'un qui a même pas probablement, tu sais, qui a pas bosselé ta voiture en lançant contre celle-ci. C'est un gars qui n'a même pas lancé 90. Impressionnant. Ryan Yarbrough.
Ouais, écoute, Alain, tu sais, si on peut partir un débat sur le fait que on a besoin de ce genre de lanceur-là dans le baseball. C'est pas vrai qu'il faut que tu lances toujours 96, 17, 18, puis que, tu sais, je veux dire, retirer un frappeur, c'est de le déstabiliser, le désynchroniser, tu sais, le déjouer dans ce sens-là. Puis écoute, Yarbrough, dans le match de dimanche soir, je veux dire, il maîtrisait sa balle à effet, comme tu l'as dit, il n'en a pas poussé une au-dessus de 90, 88 a été son maximum.
Ouais.
Sur une balle rapide. Et pourtant, beaucoup d'élan dans le vide, beaucoup de joueurs qui sont instables dans le rectangle, en déséquilibre. Et je le sais qu'il faut repêcher des gars qui lancent fort, mais on peut-tu des fois apprécier un lanceur qui lance avec sa tête, qui lance avec des balles à effet, qui lance... Écoute, moi, j'ai trouvé ça fantastique de voir un gars comme ça maîtriser une attaque comme les Dodgers, qui vient de marquer quoi, ça... 18 points plus ouais. Les 8 points. T'sais, on a marqué près de 20, ouais. Au-dessus de 25 points dans les deux premiers matchs. Puis là, on n'est pas capable de mettre une balle en jeu qui a de l'allure, ou à peu près. Honnêtement, Alain, je suis convaincu. Je sais que on parle à Alex Agostino souvent avec les Phillies, puis dit on recherche tel type de lanceur, puis
ouais.
Tu lances pas tant de vitesse, on te regarde même pas. Ça devrait pas être comme ça. C'est un art lancé comme Yarbrough a fait, puis moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez, puis on tasse ces gars-là pour un gars qui lance à 96, ouais. 17, mais qui n'est pas capable de lancer une prise, mais on va lui montrer à lancer des prises, puis 4 ans plus tard, il n'est pas capable d'en lancer encore des prises, alors que tu as des gars en arrière qui lancent 88, mais qui sont quand même capables de lancer la balle à peu près où ils veulent. Fait que, tu sais, moi, c'est le baseball, ouais. Là, il y a eu bien des changements dans les dernières années, mais ce qui me manque parfois, c'est ce genre de lanceur-là que j'aimerais voir plus souvent. Qui, selon moi, dans une rotation où tu en as déjà quatre qui lancent à 96+, pourquoi pas tu l'insères là-dedans? Là. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle sur le baseball, mais je trouvais ça rafraîchissant d'avoir un Yarbrough hier maîtriser une attaque comme les Dodgers.
Oui, écoute, Marc, puis là, je pense que tu vas acquiescer à ce que je vais dire là-dessus, c'est que, tu sais, les équipes veulent pas rater, justement, le gars qui lance 98-99, même s'il la place pas. Randy Johnson, c'est un bel exemple. Tyler Glasnow, quand tu étais avec les Pirates de Pittsburgh, on savait pas s'il était pour, à un moment donné, réussir à avoir le contrôle de ses tirs. C'est pour ça qu'il est parti à un moment donné. Les Rays en ont fait un lanceur de premier plan. Mais on veut pas le manquer. Tu manques un gars qui lance 88-89, tu sais, t'es prêt à le prendre, mais pas le gars qui va dominer à 95-96-97. Lui, tu veux pas le manquer, puis regarde, tu vas prendre une chance avec lui au détriment de quelqu'un qui a déjà une maîtrise de ses tirs puis qui lance pas fort.
C'est un choix organisationnel, Alain, parce que là, tu nommes des gars, ce sont de très, très beaux exemples, mais il y en a combien qu'on a essayé, qu'on n'a jamais entendu parler, là, tu sais, je veux dire.
Les Darwin Koubian, là.
Alors, il y en a. Mais t'as raison, mais tu sais, je regarde des fois, là, tu sais, le baseball universitaire, collégial, américain, on sait à quel point c'est devenu, tu sais, le calibre a augmenté, mais t'en as des excellents lanceurs qui maîtrisent sans lancer des, tu sais, c'est pas tout des pass kings, là, ce que je veux dire.
Ouais.
Mais ils sont pas repêchés tôt, puis on les repousse, puis à un moment donné, mais en tout cas, ça pour dire que je sais que la puissance, ça s'enseigne pas, c'est naturel, c'est beau à voir, c'est parfait comme ça, mais le baseball, c'est plus que ça.
Ouais. Marc, dernier mot sur cette série Yankees-Dodgers. Est-ce que il y a des choses que tu as retenues relativement à ces deux équipes-là? Moi, personnellement, je pense que les Yankees sont bien placés. Peut-être un peu d'aide en relève dont ils auraient besoin. Chez les Dodgers, Marc, le bas de la formation, c'est encore un point faible, je pense.
Oui, non, ça c'est clair. Par contre, j'aime voir un Max Muncy qui va beaucoup mieux. Ça va aider éventuellement à avoir plus de profondeur au niveau de l'attaque. Chez les Yankees, tu as raison de dire qu'il ne manque pas grand-chose. Par contre, je vais soulever un point que tu as souligné lors de notre match de dimanche soir. Tu sais, ça n'a pas été une série très attendue.
Ouais.
On va se dire que la qualité des matchs, bon, tu sais, oui, dans le premier match, bon, Judge qui frappe un circuit en première manche, Otani qui en frappe un, tu sais, ça donnait le ton. Mais tu regardes le résultat des matchs, ça n'a pas été des matchs là, hyper spectaculaires, bon, un peu comme la série mondiale l'année dernière, alors que ça s'est terminé en 5. Bon, il y a eu évidemment le match numéro 5, il y a eu ces erreurs des Yankees et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais souhaité, mettons, des matchs un peu plus serrés peut-être, un petit peu plus là, de...
Ben, je pense une meilleure exécution, Marc.
C'est vrai, effectivement. Hier, les Dodgers en défense a été vraiment plus difficile, mais évidemment, si on se rappelle le match numéro 5, où là, ça a été les Yankees. Mais bon, ça reste que on voit que c'est deux très bonnes équipes, de toute évidence. Les Yankees, moi, ils me surprennent. Moi, je veux dire, sans Garrett Cole, sans Stanton, je croyais pas tant à ça que Bellinger ou Goldschmidt connaissent des saisons de la sorte. Alors bravo les Yankees qui réussissent à dominer, il faut se le dire, là, le présentement de cette division Est de la Ligue américaine.
Marc, le Messi est arrivé. Ça, c'est à Kansas City. Mais Jack Callion finalement a été rappelé. On le savait, Marc, éventuellement, c'était pour se faire dernier. Pour le nombre de coups de circuit, on manque cruellement d'attaques chez les Royals. C'est un peu dommage parce que le personnel de lanceurs va très, très bien de ce côté. 15 circuits depuis le début de l'année, 6 en 12 matchs au niveau 3A avec un MPP au-dessus de 1000. On n'est pas certain encore s'il est capable de maîtriser des balles à effet, mais Marc, si on ne l'essaie pas, on n'améliorera pas notre sort sur le plan de la puissance des Royals. Le fruit était mûr. C'est un gars, ça fait pas longtemps qu'il a été rappelé, Marc. C'est un gars qui aurait pu lancer aussi. C'est un colosse. C'est un solide gaillard. Et tous ceux qui l'ont côtoyé, Eric Serrantola nous en a parlé lors de l'entretien, Marc. Il a dit que ce gars-là, c'est ça. C'est un bonhomme impressionnant. S'agit de voir maintenant si il va être capable d'avoir un impact. Marc, c'est beaucoup lui demander.
Oui, tu as raison. Moi, je pense que son petit séjour au niveau 3A a convaincu tout le monde. Ouais. Là, c'est que là, on sait comment ça fonctionne. C'est qu'au niveau 2A, ce sont tes meilleurs joueurs d'avenir.
Ouais.
Donc, ce sont des t'affrontes d'excellents lanceurs qui ont des bras, tu sais, on en parlait tantôt, là, des bras puissants, mais qui manquent à peaufiner un peu leur jeu. Et il a été dominant. Là, on l'a envoyé au 3A pour se dire, bon, des vétérans, des gars qui ont un peu plus d'expérience, qui ont peut-être une petite tasse de café dans le baseball majeur. Donc, on veut voir. Mais, tu sais, Alain, il a répondu. 6 et 5, 250 livres. C'est un athlète. Il frappe. Oui, ça va être, il est vulnérable pour le retrait sur des prises ou des élans dans le vide. Mais, Alain, tu regardes les Royals, on n'a pas marqué 200. Il y a trois équipes qui n'ont pas marqué encore 200 points. Les Royals font partie de ces équipes-là. On n'a pas de puissance. Bobby Witt Jr. connaît une très bonne saison, mais un peu moins de coups de circuit. Pasquantino n'a pas la puissance des années passées. C'est sûr que c'est une pression, parce que c'est un peu l'étincelle qu'on avait besoin là, chez les Royals. Ouais. Alors, il arrive dans des conditions un peu, effectivement, en essayant de sauver un peu la situation. C'est pas des conditions nécessairement idéales, mais par contre, ça peut aussi être très motivant. Ça peut l'amener à peut-être que c'est le genre de joueur qui est capable d'exploiter ses forces dans ces moments-là. Mais c'est bon pour le baseball. C'est vraiment. Lui, Alain, il a été repêché tout récemment, mais c'est pas de première ronde, sixième au total.
Exact.
Alors, qui a été repêché avant cette année-là? Est-ce que tu te souviens rapidement?
Oui, ben écoute, moi je me souviens de Gordon avec Condon, c'est-à-dire avec les Rockies, parce que c'est lui qu'on dit qu'il était le meilleur frappeur. Travis Bazzana, l'Australien Bazzana qui a été le premier choix.
Exact.
Et parmi ceux qui ont atteint le baseball majeur dans les choix de première ronde, il y en a deux. Cam Smith, qui était le premier choix de première ronde d'avoir atteint les majeurs. Il a été pêché par les Cubs, mais c'est pas avec les Cubs qu'il a fait ses débuts. Lui a fait partie de la transaction pour Cal Tucker. Et Nick Kurtz, avec les Aces, qui commençait à bien frapper. Marc Schuchas, se retrouve malheureusement sur la liste des joueurs blessés. On aurait eu besoin de son coup de bâton en fin de semaine contre les Blue Jays de Toronto. Et Marc, juste une petite note sur Cali Anand, c'est que au niveau 2A, on l'utilisait comme premier but, mais on l'a préparé, Marc. Et écoute, il fallait pas connaître vraiment le baseball quand on a libéré Hunter Renfrow, là, pour savoir qu'au champ droit, éventuellement, c'est Caliano qui allait là parce que c'est là qu'il a joué au niveau 3.
Ouais. Ouais, oui, puis on l'a préparé. Le premier but, semble-t-il, plus naturel, mais non, ça, tu t'en vas dans le champ comme voltigeur. Ouais. Et puis, effectivement. Ben, tu sais, Alain, pas plus tard qu'il y a une semaine, lorsqu'on a présenté cette balado, on vous le disait que ça allait probablement se faire avant notre prochain. C'est arrivé sans surprise, finalement. Là.
Exactement. Marc, expérience à 6 lanceurs partants. C'est que les Mets, il y en a un qui revient, c'est Blackburn. Difficile de retirer ceux qui étaient déjà là. Les Mets lancent très bien, donc et ça va bien, on gagne. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça va faire des petits, d'autant plus qu'au mois de juin, on pense que Montas et Manea pourraient revenir. Et on a le luxe de les préparer tranquillement et pas faire comme les Orioles ont fait avec Kyle Gibson, de le précipiter au retour. Gibson, qui d'ailleurs trouvé une équipe, Marc, les Rays de Tampa, mais les Rays, c'est un contrat des ligues mineures qu'on lui a donné. Donc, tu vas prendre ton temps, tu vas faire les choses à notre manière, puis si on est capable de faire de tout avec toi, tu vas revenir. C'est un peu la façon que les Rays fonctionnent. Mais pour les Mets, écoute, on pourrait se retrouver avec 8 lanceurs partant dans la formation. C'est tôt dans la saison. Mais est-ce qu'on regarde à long terme en faisant ça?
Ben, moi, Alain, il faut être en mode solution. Ce que je veux dire par là, c'est que regarde le nombre de lanceurs qui se blessent. Là,
ben oui.
C'est qu'à un moment donné, bon, on comprend que la puissance, ça fait partie des évidemment des raisons pour lesquelles il y a des joueurs se blessent et tout ça. Mais écoute, je sais là qu'à une certaine époque, on disait mais Nolan Ryan, il lançait ci, il lançait ça. Puis c'est vrai. Je veux dire, il y a quelque chose quelque part qu'on a échappé. Mais là, il faut être en mode solution pour se dire là, on peut-tu trouver une manière où on va garder nos gars en santé, puis on va garder nos gars qui peuvent être efficaces au mois d'octobre. T'sais, combien d'équipes qui arrivent en octobre en série, Alain, puis là, les 200 quelques manches derrière la cravate, ça fait, puis à un moment donné, les gars, bon, j'ai Max Scherzer en tête, là, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il arrivait en série, à un moment donné, il y avait le syndrome du bras qui avait plus rien dedans, puis on pouvait pas le blâmer. Fait que, ça me surprend que les équipes l'ont pas fait bien avant, puis de façon régulière, tu sais, vraiment de l'essayer. Ouais. Là, je sais que probablement que lorsque des équipes ont tenté de le faire, il y a des vétérans lanceurs qui disent « Non, moi, je lance, c'est pas vrai que je vais lancer avoir 5 jours de congé avec mes départs, j'en veux 4, c'est comme ça. » Bon. Mais à un moment donné, tu sais, le gros bon sens, peut-être que c'est ça que ça prend, là. C'est une journée de plus de repos. Est-ce que ça va permettre aux bras d'être un peu plus en santé à la fin de la saison? Moi, je trouve pas ça fou du tout comme idée, là. Si on peut se le permettre en plus, pourquoi pas?
Oui. Écoute, ça se fait au Japon. Est-ce que c'est convaincant? Difficile à dire. Moi, j'ai hâte ce que ça va donner. Puis, en plus, comme je le mentionnais, ça va bien pour les Mets. C'est un bon moment pour le faire.
Ouais.
C'est un bon moment pour le faire. On a le personnel pour le faire. Donc, c'est une expérience, je pense. Moi, j'ai l'impression que ça va marcher du côté des Mets de New York.
Ben, écoute, c'est... moi, je trouve ça le fun qu'on laissait tôt. Tu l'as dit tantôt, là, on a déjà entendu parler de ça, on l'a fait, mais là, on est en, tu sais, on a le tiers de la saison de jouer, il reste 2 tiers, là. Fait qu'il y a du temps encore. Puis, tu sais, on verra, là, si, au mois de septembre, la rotation des Mets est dominante, on va, c'est sûr qu'il y en a qui vont commencer à imiter ou copier, là, cette façon de faire.
Ouais. Et Marc, je veux juste revenir sur les joueurs qui ont fait leur début cette année dans le baseball majeur. Il y en a un de deuxième ronde qui avait commencé la saison avec les Angels, le lanceur Ryan Johnson.
Oui, c'est vrai.
Qui était retourné dans les ligues mineures. Donc, ça fait déjà 3, moins d'un an après le repêchage de 2024 là, qui ont gradué cette année. Tendance qui va aller en s'accélérant, ça, vous pouvez en être certain. Puis même, moi, je prévois, Marc, des choix plus tardifs qui pourraient surprendre des gars qui viennent d'être repêchés après 4 années d'université, là. Ces gars-là ont 22, 23 ans avec une maturité, puis il y en a qui s'ajustent plus vite que d'autres.
Absolument. Ouais, tout à fait d'accord avec toi, Alain. Je regarde ce qui se passe. D'ailleurs, ça va être intéressant, le prochain repêchage. Il y a quelques gars des Canadiens, dont Antoine Jean, là, dans lequel, d'ailleurs, j'ai fait une entrevue cette semaine. Ouais. D'ailleurs, ça va être disponible jeudi là pour un compte complet entretien. Antoine Jean qui a connu une saison remarquable. Alors, lui, c'est le genre de gars qui pourrait, là, si jamais il se fait repêcher, ça pourrait... pas nécessairement tarder là, ses débuts dans le sport majeur éventuellement. Je ne veux pas lui mettre de la pression, mais ce que je veux dire, c'est que ce type de joueur-là, effectivement, Alain, tu regardes, on élimine de plus en plus des équipes affiliées. C'est pas fini cette affaire-là. Ça va se poursuivre. Alors, les programmes universitaires s'adaptent aussi, puis ça paraît. Puis là, les joueurs sont de plus en plus prêts à venir aider les équipes des majeurs, là.
Oui, maintenant, j'ai hâte de voir si les salaires des instructeurs vont augmenter éventuellement et si, à un moment donné, on va arriver à quelque chose qui ressemble à ce qui se fait au football. On sait qu'au niveau universitaire, au football, les instructeurs sont très, très bien payés, mais dans la Ligue nationale de football aussi. Le sport majeur, pas sûr qu'on s'est ajusté à cet effet-là. Peut-être que les formateurs mériteraient d'avoir un peu plus de considération. C'est le temps de la question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. On revient sur la série spectaculaire qu'on a eue entre les Dodgers et les Yankees, très attendue. Évidemment, ça mettait en vedette Shohei Ohtani et Aaron Judge. On vous met dans la peau d'une équipe qui commence. Vous choisissez qui? Donc, pour partir votre équipe, Shohei Ohtani, puis même en le considérant comme lanceur, ou Aaron Judge. Donc, on vous invite à aller mettre vos commentaires, à les écrire sur notre page Facebook, facebook.com/comptecomplet-balado. Vous pouvez aller directement aussi sur notre site internet comptecomplet.com.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
Alain, c'est le moment de souligner notre partenaire principal pour ce balado compte complet. C'est Plan Match, cette magnifique boutique de baseball. C'est à Boucherville. Il y en a également une maintenant dans la belle région du Saguenay. C'est à Jonquière. À Boucherville, vous avez également Cache de frappeurs, cours privés qui sont disponibles aussi. Alors, Plan Match, allez sur la boutique en ligne. Également, vous pouvez trouver tout l'équipement nécessaire pour votre saison de baseball. Et je vous rappelle également la meilleure façon d'en savoir un peu plus sur notre balado, visitez notre site internet qui est le www.comptecomplet.com.
Marc, on devrait avoir une section blessure à chaque semaine. Et les deux principales qu'on a retenues, à tout le moins, impliquent des équipes qui se cherchent. qui ne joue pas pour 500, les Braves d'Atlanta et les Diamondbacks de l'Arizona. Ces deux équipes-là avaient des attentes plus élevées là, que de ne pas jouer pour 500 rendu au début du mois de juin. Et là, on vient de perdre du côté des Braves de façon définitive le reste de la saison. AJ Smith, Shaver, qui avait montré de très belles choses cette année en appui avec à Sale principalement. Chris Sale qui connaissait une très très bonne saison et Strider qui est revenu. Et du côté des Diamondbacks, ben, c'est Corbin Burnes. On n'a pas encore la confirmation de la nature exacte de la blessure. Raideur au coude, c'est jamais bon signe. De ce côté-là, Marc, c'est inquiétant de part et d'autre.
Ah, y a c'est deux dossiers qui sont effectivement inquiétants et différents, par contre. Dans le cas des Braves, j'ai pas aimé comment ça s'est déroulé, cette affaire-là, mais je vous explique rapidement. C'est que on l'a vu là après un certain lancer, c'est contre Trey Turner. Il y a un lancer précis, c'est un changement de vitesse. Il a fait des gestes avec son bras et personne n'est allé le voir au monticule. Alors que, tu sais, je veux dire, Alain, quand tu vois un lanceur commencer à faire des drôles de mouvements avec ton coude, ton bras, demande un temps d'arrêt. Là. Fais juste, je vais aller vérifier. On l'a pas fait et ça a pris un Spencer Strider qui est allé le voir lui-même. L'instructeur des lanceurs et le gérant pour dire « Hey, les gars, moi, je l'ai subi cette opération-là. Là, j'ai eu des maux de bras. Là, ça vaudrait la peine. » Tu sais, il a effectué quoi? Deux lancers supplémentaires après ça. Pour finalement, bon, on est allé le voir. Je trouve que ça les Braves paraissent pas bien là-dedans. Ouais. Puis je blâme pas le gérant parce que le gérant, je peux vous dire une chose, il y en a des choses à regarder, là. Oui, il y a son lanceur, mais tu sais, il y a toutes sortes de choses qui se déroulent dans un match, il y a des décisions. Moi, je pointe surtout un instructeur des lanceurs. Ouais. Son rôle, c'est de regarder chaque lancer, qu'est-ce qui se passe, la réaction du lanceur, tu sais, puis de pas avoir réagi immédiatement là-dessus. Moi, ça, je me pose des questions, puis regarde, là, on se rend compte que c'est une blessure qui est importante, on va subir une opération. Tu sais, ça fait... regarde, Alain, c'est pas nouveau, là, les blessures des lanceurs. Faut être hyper prudent. Faut considérer chaque douleur, chaque geste posé. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est la carrière du joueur qui en dépend. Là. Puis là-dessus, c'est ça. J'ai trouvé qu'on était un petit peu lent. Est-ce que si on l'avait enlevé, on aurait... Tu sais, il aurait pas subi cette blessure-là? Probablement pas, mais... Tu peux pas laisser un gars qui a probablement un ligament déchiré effectuer deux ou trois lancers supplémentaires. Là. Tu comprends? J'ai un petit peu moins aimé cette réaction des Braves-là. Ouais. Mais ceci étant dit, bon, qu'est-ce que tu veux, ça fait maintenant partie du sport. Et dans le cas de Corbin Burnes, ce sont ses paroles qui ont plus frappé l'imaginaire alors qu'il semblait avoir dit au soigneur là, qui est allé rejoindre au monticule, il dit « Mon bras est mort, mon coude est mort. » Bon, il y a une expression « dead arm » là, qui est pas, faut pas paniquer non plus, ça dit « j'ai rien dans le bras », mais là, c'est comme, il a précisé que mon coude est mort.
C'est, généralement, Marc, le bras est mort, c'est l'épaule, qui fait en sorte que tu as moins de vélocité dans le tir. Juste préciser.
Alors, exact. Alors, tu sais, c'est sûr que ça regarde pas super bien, mais faut pas peser sur le bouton panique tout de suite. Mais on dirait que ça reflète un peu la saison des Diamondbacks. Ils sont pas partis encore, alors que parfois, tu avais l'impression que, bon, OK, là, on semble s'être stabilisé, puis on tombe sur une série de défaites. Difficile de s'imaginer qu'avec une aussi belle formation, avec du talent, Burnes venait ajouter déjà un personnel de partant qui était selon moi assez solide. Écoute, là, on est pris avec ça, on est pris avec un certain problème. Mais dans le cas de Burnes, c'est sûr que ça regarde pas bien. Et c'est sûr, Alain, que même si c'est pas si pire son affaire, il va rater 3-4 départs. Ouais. Tu sais, je veux dire. Alors, tu sais, un autre gars que tu mets sous un contrat à long terme, un gars qui est convoité, est-ce que les Blue Jays, est-ce que les Orioles ou enfin les équipes qui convoitaient ces services se disent « Bon, mais au moins... Parce qu'on peut jamais prévoir des blessures comme ça.
C'est clair. Écoute, chez les Braves, c'est pas compliqué. On lance bien depuis le début de la saison. Il y a des gars à l'attaque qui fournissent pas. On a un rendement global en bas de la moyenne. Et du côté des Diamondbacks, c'est un peu comme l'année passée, on frappe. De ce côté-là, on frappe du côté des Diamondbacks, mais au monticule, Marc, surtout en relève, là, on a énormément de problèmes. Et en fait, le meneur pour le nombre de sauvetages en relève, je te le donne en mille, c'est Shelby Miller. Fallait bien que je faufile son nom à quelque part à un moment donné, là. Mais Shelby Miller est le meneur pour le nombre de sauvetages. Ça devrait pas être lui, en principe. Là. C'est par défaut que ce gars-là se retrouve comme releveur numéro un. Là, avec, même si je te dis pas qu'il y a pas qu'il y a de mauvaise saison, je te dis juste que c'était sûrement pas le plan numéro un quand ça a commencé cette saison-là du côté des Diamondbacks de l'Arizona. Marc, on va parler d'une équipe qui va pas bien, mais vraiment pas bien, mais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Les Rockies du Colorado. En fait, ce qui t'inquiète vraiment, c'est cette tendance. En fait, à chaque année, il y a des équipes, tu commences et tu sais qu'ils n'ont pas de chance de gagner. On souhaite un changement éventuellement et peut-être qu'il y en aura-t-il un. Malheureusement, est-ce que ça va passer par une grève, je ne sais pas, mais. Tu sais, bon, évidemment, tu as les équipes là, qui sont en haut, puis qui ont de l'argent, puis tout ça. Et là, les Rockies, qui ont dépensé, ceci dit, mais très, très mal dépensé. Bon, je pense que Chris Bryant est en haut de la liste. Mais du côté des White Sox de Chicago, ça, c'est une mauvaise gestion, on va le dire, là, des actifs qu'on avait il y a 3-4 ans. Et le propriétaire qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Mais c'est... Je sais pas comment mélanger ça, parce que là, on parle d'équipes qui avaient quand même un minimum d'argent, et t'as l'autre, les Marlins, qui, eux, n'essayent pas de gagner, comme les Pirates l'ont pas essayé pendant quelques années.
En fait, qu'est-ce qui est pire, Alain? Est-ce que c'est de dépenser comme les Dodgers ou les Mets font, ou de regarder des équipes comme les Rockies, te souligner avec justesse les Pirates de Pittsburgh, les Marlins? Et qu'est-ce qui est pire pour le baseball? T'sais, parce que si tu avais à rétablir un certain équilibre, tu nivelleras pas par le bas, là.
Mais non.
On peut blâmer évidemment les Dodgers de dépenser, mais le spectacle est pas mal plus fun du côté des équipes qui dépensent. Bon, est-ce qu'il y a un juste milieu à ça? Absolument, mais moi je pense, Alain, faut améliorer cet aspect-là du baseball. Là. Ça fait deux années de suite qu'on a des équipes. Mm-hmm. Tu sais, qui change la donne, là. Écoute, Alain, là, t'es dans un passage à vide, que ce soit individuel ou en équipe, t'affrontes les Rockies, ça règle tous les problèmes, là. Regarde les Mets, Juan Soto, elle est pas super bien, oups, ça affronte les Rockies, là, soudainement, là, bon, il est reparti un peu. Mm-hmm. J'exagère à peine, là, mais c'est un peu ça, là. C'est concrètement, ça va pas bien. Mm-hmm. C'est pas bon pour le baseball. Il y a rien de bon là de voir des équipes comme ça. Puis là, les A's en plus qui se retrouvent dans une situation difficile avec en jouant à Sacramento. Puis là, ben, écoute, on est vraiment dans un passage à vide où là, t'as l'impression que là, ça devient de plus en plus difficile. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est à défaut d'avoir un plafond salarial, est-ce qu'on devrait avoir un plancher? Puis une fois que t'as un plancher, ben là. Là, il faut que tu comme tu l'as dit tantôt, il faut que tu gères comme du monde, ton équipe.
Oui.
Mais tu sais, on ne devrait pas avoir des équipes si faibles que ça dans le baseball. Je veux dire, l'histoire nous le dit, Alain, les White Sox ont battu des records de plus de plusieurs années hier, l'année passée. Et là, c'est au tour des Rockies de pousser ça à un autre niveau. Écoute, tu n'as pas 10 victoires après 59 matchs de jouer. On est ailleurs, là.
Oui. Et dans le cas spécifique des Rockies, on a déjà analysé, Marc, le très mauvais repêchage de cette équipe-là. On a mal dépensé. Quand l'année a commencé, je pense pas qu'on pouvait s'attendre à un cauchemar comme celui-là quand on évaluait l'équipe. Il y avait des actifs qui semblaient intéressants. Le meilleur frappeur de loin de l'équipe, c'est un ancien choix de première ronde, c'est Jordan Beck. C'est le meilleur frappeur de l'équipe au moment où on se parle. Parmi les autres actifs, tu as Hunter Goodman qui est derrière le marbre, qui est appuyé par Starling, tu disais c'est correct. Ryan McMahon, au troisième but, qui était potable. Tovar, c'est autour de lui qu'on a bâti l'équipe. Tu avais Brenton Doyle, tu disais Nolan Jones, mais là on l'a échangé, Nolan Jones. Sauf que, Marc, il n'y a personne. Il n'y a personne, tout le monde en même temps s'est mis à jouer comme si on jouait à Seattle. Tu sais, on est passé du meilleur stade de frappeur là, au pire. C'est épouvantable. Tu sais, c'est pas normal qu'une équipe du Colorado, aussi mauvaise soit-elle, soit parmi les dernières dans le baseball majeur pour des points marqués. Bon, moi, j'ai jamais vu ça. Là.
Mais tu sais, ça doit dire quelque chose. Que si tout le monde tombe dans un passage à vide dans la carrière en même temps, Il doit y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas là, avec cette organisation-là. Là. En tout cas, moi j'ai. Bon, c'est sûr que tu sais, on aime la parité, même si. Tu sais, dans le baseball, je sais que il y a des équipes qui dépensent plus que d'autres, là, on le sait. Là. Mais tu regardes les gagnants des séries mondiales des 10 dernières années, on répète pas souvent. On répète pas souvent. Fait que c'est il y a une certaine parité à ce niveau-là, mais je comprends là, qu'évidemment, au niveau des masses salariales, il n'y en a pas de parité. Là. Mais ça reste que des équipes qui sont créatives. Tu sais, je regarde Cleveland qui est encore là, puis il y a plein d'exemples d'équipes qui réussissent avec des budgets restreints, à être créatifs, puis à faire des choses. Fait que ça se fait. Fait que l'excuse de dire que on n'a pas d'argent ou on n'a pas ci, on n'a pas ça, tu sais, j'embarque pas là-dedans. Là. Moi, c'est une bonne gestion. Ouais. Prévoir des choses, c'est sûr qu'il y a des blessures, puis parfois il y a des choses que tu contrôles moins, mais tu peux pas avoir des équipes dans la meilleure ligue au monde qui ont même pas l'air à la bonne place. Là. Tu peux pas avoir ça. C'est pas une saine gestion. Là.
Ouais. Puis Marc, évidemment, est-ce que tu pouvais prévoir, bon, Michael Tolia viendrait de retourner dans le baseball mineur, ne ferait pas pour 200. Ryan McMahon n'a même pas un MPP de 500 à l'étranger. Tovar a été blessé. Il y a un paquet de trucs qui sont... Tu sais, Chris Bryant, Marc, je ne sais pas s'il va rejouer. Là. Bien honnêtement, la blessure au dos, c'est chronique. Ce ne sera jamais le Chris Bryant qui était avec les Cubs de Chicago. On est prêt avec. C'est un mélange. C'est pour ça, moi, je place les Rockies. Je comprends ce que tu dis. Dans une catégorie qui n'est pas la même que celle des Marlins, là, on n'essaye même pas. Là.
Exact.
C'est deux dossiers différents, je pense. Ouais. Un qui relève de l'incompétence et une autre de la volonté de faire de l'argent au détriment du rendement sur le terrain. Je pense qu'il y a une différence à faire entre les deux. Mais ce qu'on peut souhaiter pour les partisans des Rockies, c'est que ça se replace minimalement là, au cours des prochaines semaines parce que c'est 9 victoires là, après 2 mois et après le tiers de la saison. C'est même pas 30 victoires au bout de l'année. Je peux pas croire qu'on se rendra pas à 30, là, mais même 40. Enfin. Écoute, Marc, on verra. Mais c'est. On pensait avoir vu le pire l'année passée avec les White Sox de Chicago. C'est ça qui est renversant là-dedans. Puis finalement, ben là, on a trouvé le moyen d'avoir une équipe qui est encore plus terrible. C'est le temps de la carte de la semaine. On va passer des Rockies à l'excellence. La carte de la semaine, présentation de cartes, tradeunion-dépôt.ca, votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. Marc, je vais te laisser aller sur le profil un peu de Ken Griffey Jr. C'est sa carte recrue Upper Deck, la carte numéro 1. De 1989, Griffey, Temple de la renommée 2016. C'est la première du premier ensemble des cartes de MLB par Upper Deck. Donc, et ça, c'est de chaque côté, on a voulu faire un petit peu spécial là, avec un côté un petit peu coloré, plus moins mât que ce qu'on voyait auparavant. Marc, je veux que tu me parles de Ken Griffey parce que souvent, tu as toujours été, puis moi, je te vois quand tu parles de Ken Griffey, même à l'extérieur des ondes, là. Et c'est t'as un élan, Marc, que tu même dans tes plus beaux rêves que t'es en tout cas qui est difficile à reproduire. Puis moi j'aimerais que tu me dises un petit peu techniquement comment ça se fait qu'un gars comme Griffey, qui avait des belles habiletés naturelles, il aurait pu être demi-offensif au football en passant, là. Ouais. C'est son père qui lui a dit finalement ben tu veux jouer 15 ans au baseball ou ben moins de 10 ans au football? C'est comme ça que ça s'est réglé. Et donc tu l'as côtoyé de proche, Ken Griffey. Raconte-moi un petit peu là, ce qui fait qu'un gars comme ça est capable de déployer un élan qui est aussi naturel, fluide que celui-là.
Bon, écoute, c'est une réputation qui est faite maintenant là, avec cet élan-là. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de jouer contre lui ma première année professionnelle. Ma première fois que j'ai été dans la Ligue d'automne. Avec les Dodgers, on affrontait donc l'équipe des Mariners, dont faisait partie Ken Griffey Jr., qui n'était pas encore dans les ligues majeures à ce moment-là, mais évidemment, vous comprenez que tout le monde parlait de lui. Alors, j'ai pu l'observer. J'étais le voiture de centre des Dodgers à ce moment-là, dans cette équipe-là là, de Ligue d'automne, alors que Griffey était... Donc, inévitablement, tu regardes ce qui se passe de l'autre côté. Bon, probablement, physiquement, tu vois que le gars était quand même assez solide. Mais vous savez... Ton bras puissant, c'est son bras gauche. Il est gaucher. Il lance la gauche. Il est frappeur gaucher. Donc, c'est sa main du qui parce qu'on tient le bâton, c'est sa main du haut qui est la force et qui va évidemment diriger un peu tout ce qui se passe. Parce que, tu sais, techniquement, des fois, tu vas dire, bon, ce qu'on appelle le top end, donc la main haute, c'est elle qui, tu sais, qui va diriger, puis bon. Alors que des frappeurs gauchers, ils lancent la droite, donc c'est la main du bas qui est la plus forte. Alors, tu sais, des fois, il faut compenser, il faut... Et moi, j'ai toujours cru à exploiter ses forces. Alors, lui, là, il avait Alors, autrement dit, là, lorsqu'il lance, c'est le même mouvement. Je lance, là, mon côté arrière, il est fort, puis je frappe, c'est le même mouvement. Alors qu'un frappeur gaucher, il lance de la droite, ben il faut que la rotation des hanches se fasse lorsque je frappe. Et lorsque je lance, ben c'est de l'autre côté. Vous comprenez un peu là, ce que je veux dire? Alors, lui, c'est le même côté. Donc, son élan peut être contrôlé. Puis là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais ce qu'on dit souvent, un élan, il faut qu'il soit court. En fait, c'est une traduction, là. Court et long. La traduction, c'est short-long. Court et long, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque mes mains partent de la position initiale, c'est de se rendre à la balle rapidement. Donc, d'être très court à la balle. Moi, ce que j'appelle souvent, c'est d'être connecté. Et une fois que tu es connecté, le bâton reste longtemps dans la zone de contact. Donc, court à la balle, mais longtemps dans la zone de contact. Puis lui, là, il le fait à la perfection. Alors que son... Donc, il y a des mains de toute évidence rapides en ayant cette main haute-là sur le bâton, et sa main forte, il amène ça donc à la balle. Mais après ça, là, c'est... Alors lui, le changement de vitesse, Alain, la balle à effet qui était un peu déjouée, ça le dérangeait à peu près pas parce que son bâton était tellement longtemps dans la zone de contact que c'est là que là il pouvait pelleter ses fameuses balles, les fameux tirs bas à l'intérieur. Il envoyait ça à des distances folles. Alors qu'il pouvait aussi attendre la balle rapide au coin extérieur et avec un élan court, ben, frapper des balles à plus de 400 pieds du marbre au champ opposé. Écoute, si tu avais à observer un élan puis dire ça, faut que j'essaie d'imiter ça, c'était Ken Griffey Jr. que tu regardais. Mais c'est pas tout le monde que sa main forte du côté gauche, c'est pas tout le monde qui est capable de rester connecté. Alors, tu sais, si tout le monde était capable de le faire, tout le monde frapperait comme lui. Mais il était unique. Il y avait, Alain, cette énergie-là autour de lui. Bon, évidemment, c'était un choix de première ronde, tu le sais. Donc, il se comportait sur le terrain comme un gars comme ça. Mais moi, j'ai trouvé ça fantastique parce que de proche, de le voir de proche générer cette puissance-là, le son que la balle fait contre son bâton, tout est différent. Tout est différent. Puis, je veux dire, c'est un joueur unique qui avait le sourire en plus. Donc, il avait un charisme autant qu'il avait du talent, puis ça, ben, ça l'a propulsé vers évidemment une carrière extraordinaire.
Marc, c'est pas parce que t'es le premier choix au repêchage que c'est une garantie, hein. J'ai fait la liste, là, et celui qui a le plus haut WAR de l'histoire, là, parmi les tout premiers choix, c'est Alex Rodriguez. Pour des raisons X, il faut tenter de la renommée, mais Alex Rodriguez, de loin, est le premier. Et Ken Griffey, troisième, tout près du deuxième, qui est Chipper Jones. Chipper Jones qui a eu une très, très belle carrière dans le baseball majeur. Donc, Griffey suit et ces trois-là se démarquent nettement. Juste pour te donner une idée, là, dans le cas de Rodriguez, c'est le seul qui dépasse le 100. Il est à 117. Par la suite, tu as 85, 83, Jones et Griffey. Et tu tombes à 56 par la suite. C'est Joe Mauer qui est au temps de la renommée.
Sans nommer tous les choix de première ronde, tu sais, qui n'ont pas fait carrière, là, je veux dire, c'est là que tu vois que c'est pas une science exacte, mais quand tu trouves le diamant, ben là, il vaut la peine.
Oui, puis juste pour te dire, Marc, j'ai trouvé un joueur à 38 qui est au temple de la renommée, Harold Baines. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On l'a nommé au temple de la renommée. Félicitations, il a sa plaque. Mais il y en a quelques-uns entre Harold Baines et Ken Griffey qui ne sont pas au temple de la renommée. Est-ce qu'on va les considérer, ceux-là? Bien content que ce soit pas moi qui ai à voter. Bon, donc notre carte de la semaine, Ken Griffey Jr., 50 recrues. C'est le moment de vous initier à la lecture avec notre ami Baseball Bob McDuff, auteur de livres pour enfants, avec thème principal, le baseball. Belle occasion de vous initier à la lecture. On le sait, la littérature sportive au Québec... grandit à chaque année, mais pour vous initier, pour les jeunes. Donc, pourquoi pas aller lire les livres de notre ami Bob McDuff. On vous invite à aller sur le site internet www.baseballbob.ca. Notre portrait de la semaine, Miguel Vargas. Marc, on parle pas beaucoup des White Sox, ni ses joueurs, ni des Rockies. Depuis deux saisons, il n'y a pas de raison de le faire. Mais dans le cas de Miguel Vargas, c'est qu'il va très, très bien depuis un mois. C'est un ancien de l'organisation des Dodgers de Los Angeles. On s'en est servi pour acquérir des actifs. Ça, c'est évidemment le luxe d'avoir, tu comprends, un réseau de filiales très garni. Ça nous a permis d'avoir Edmund. Il a fait partie de cette transaction-là. Il y avait trois équipes impliquées dans cette transaction-là. Il y a également Michael Kopech qui a fait partie de cette transaction-là. Et là, les White Sox, finalement, trouvent leur profit avec Miguel Vargas. Ça n'a pas été un bon début de saison pour Vargas. Mais depuis un mois, Marc fait partie des 10 meilleurs frappeurs de la Ligue américaine.
Oui, et puis écoute, il a enfin sa chance, on va se le dire. Les White Sox lui ont fait une chance de jouer, effectivement. Et moi, j'ai aimé le fait que, bon, évidemment, on n'a pas l'équipe pour remporter le titre de la division, mais au moins, on était patient avec lui, même avec un début de saison plus difficile. Mais là, à l'âge de 25 ans, il semble avoir trouvé là, la façon de jouer, de bien jouer dans le baseball majeur, mais là d'avoir un impact avec les White Sox. On va dire une chose, Alain, les White Sox, je regardais leur réseau de filiales au niveau des prospects avec la transaction. Évidemment, il y a eu quelques transactions, dont Garrett Crochet avec les Red Sox. Mm-hmm. On va se rebâtir plus rapidement peut-être que prévu. Là, je vous dis pas qu'on va gagner l'année prochaine, mais je trouve qu'il y a des bons actifs dans cette organisation-là soudainement. Les transactions comme ça, ça peut être très payant. Alors, Vargas qui démontre de très, très belles choses. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois parce que, tu sais, il y a un peu de puissance. Hein, quand même, ouais. Il y a déjà 8 coups de circuit. Capable d'aller soutirer le but sur balle. Tu sais, il fait des choses. Il a l'air d'un frappeur des Ligues majeures.
Ouais.
Et ça, déjà en partant avec les statistiques qui nous démontrent que. Et à l'âge de 25 ans, il a atteint une certaine maturité. Ouais. Fait qu'il y a des belles années s'en viennent pour lui, là.
Oui, puis Marc, c'est le meneur pour les White Sox pour le War. Ça, il n'y aura rien de surprenant là-dedans. 16 coups sûrs de plus d'un but au cours du mois. Il y a un MPP près de 900. Alors, je disais là qu'il figure parmi les bons frappeurs de la Ligue américaine au cours du mois. Puis t'as l'impression, Marc, quand on regarde les faits saillants des matchs, que ces coups sûrs sont toujours importants avec les White Sox, dans la mesure où les matchs sont importants impliquant les White Sox. Il faut tout relativiser, n'est-ce pas? Parce que les White Sox n'aggrèrent pas, évidemment, le titre de la section centrale, pas cette année. Mais effectivement, Marc, le réseau de filiales a été regarni au fil des années. Il y a lieu d'espérer de ce côté. Oui. Marc, la semaine des Blue Jays de Toronto, on a fait ce qu'on a à faire. On a battu les A's d'Oakland, balayé. Ça, c'est pas facile, balayer une série de 4 matchs. On a profité du fait qu'on a énormément de problèmes en relève chez les A's. Il y avait quelques absents. Dont Nick Kurtz, qui venait de commencer à éclore. Je pense qu'il faut bien le dire, Marc. Là, c'est un gros gaillard. Ça a pris du temps avant qu'il prenne ses aises et avait frappé quelques longs circuits avant, justement, d'être placé sur la liste des joueurs blessés. Bref, là, Barger au troisième but. Est-ce que c'est réglé, ça, dans ta tête?
Écoute, là, j'ai assez poussé pour que ce gars-là joue tous les jours. Puis là, je le regarde frapper gros circuit de 3 points dimanche qui a changé complètement l'allure du match qui a permis aux Jays de l'emporter. Absolument, là. Dans mon livre, à moi, ça s'est réglé. Attends, ce gars-là, faut qu'il joue. Moi, j'aime l'énergie que ces jeunes-là apportent. Mm-hmm. Et, là, c'est Clement qui s'est réveillé. Écoute, t'as besoin de ce genre de joueur-là, Alain, pour supporter, ce qu'on appelle un peu le cœur de l'équipe. Mm-hmm. Il y a des choses intéressantes, mais les Blue Jays, tu l'as très bien dit, il fallait qu'ils remportent la série contre les A's. Ils l'ont fait par balayage. C'est le genre d'équipe que tu dois battre. Si tu veux rester dans la course, il faut que tu battes des équipes comme ça. Ils l'ont fait. Il y a un bon test au cours des prochains... Enfin, là, ce sont les Phillies qui arrivent en ville. Ouais. Mais je regardais la calendrier à l'un des 10 prochains jours, là, 2 semaines. C'est un bon test là, pour les Blue Jays qui s'en vient. Là. Mais tu regardes Barger, là, à cette heure, t'as un gars qui peut frapper derrière Vlad. Mm-hmm. On sait que Santander était selon plusieurs la solution, mais là, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, il est sur la liste des joueurs blessés.
Ouais.
Et là, t'arrives avec un gars comme Barger qui est capable de te faire mal. D'après moi, Vlad, plus Barger va bien, plus Vlad pourrait avoir des bons lancers. C'est même que ça fonctionne.
Ouais.
Puis, alors, tu sais, il y a des bonnes choses. Par contre, Varsho qui se blesse à nouveau.
Ouais.
Varsho qui frappait la longue balle, mais c'est à peu près tout. Il y a beaucoup de retraits sur des prises encore.
Ouais.
Il y a rien de facile, mais il y a un certain potentiel chez les Blue Jays de rester dans la course le plus longtemps possible. Les lanceurs partants font un travail honnête. Hoffman, après un petit passage à vide, a repris là où il avait commencé la saison. Fait que moi, j'aime ce que je vois là du côté des Blue Jays de Toronto. C'est à peu près où je les voyais à ce statut de la saison. Alors ça, c'est quand même une très bonne chose. C'est ça c'est sans l'apport vraiment d'Eminence qui est blessé depuis quelque temps, mm-hmm. qui n'avait pas frappé beaucoup après la première semaine où là, il avait frappé 3 circuits. Santander qui va pas bien du tout. Hein. Il y a quand même un espoir de voir ces gars-là revenir puis jouer à la hauteur de leur talent puis aider l'équipe éventuellement. Donc, pas une mauvaise chose de voir ce qui se passe. Alors, tout ça pour dire que les Blue Jays, tu sais, avec l'apport des gars qui s'en viennent, qui vont revenir au jeu éventuellement, que ce soit Jiménez ou Santander, on est quand même à la bonne place. Que moi, j'ai confiance que les Jays maintiennent ce niveau de jeu-là pour l'instant. Mm-hmm. Ils ont des défis comme n'importe quelle équipe, Alain, qui sont présentement dans la course, on va se le dire. Mais c'est quand même une division Est de la Ligue américaine. Qui ne donne pas le rendement anticipé, là, et je parle globalement là, dans cette division.
Marc, Ernie Clement, là, on va en parler un peu là, parce que là, c'est, je sais pas si tu le sais, c'est lui qui mène l'équipe pour le WAR. Devant Vlad Guerrero et devant tous les autres qui devraient être devant. Barger est troisième en passant. Dans le cas de Clement, là, parce que si Barger s'en va au troisième, il y a. Bon. À moins qu'on le soustrait face. Gaucher Corias, on verra. Mais au retour de Jiménez, on fait quoi avec Ernie Clement ou on fait quoi avec Jiménez?
Ben, écoute, là, Alain, ça se peut qu'on entre dans une situation, effectivement, un gaucher partant, alors que peut-être Barger, je sais pas, là, mm-hmm. comment on va.
Ouais.
Ça va être un beau problème, mais Clement s'est mis à frapper, Alain, puis là, il est pas arrêtable. La qualité de ses présences au bâton, il est méconnaissable du début de saison. Mais là, en agissant, en frappant de la sorte, tu vois qu'il est en pleine confiance, fait que tu le laisses là. Faut pas que tu le débarques de là, là. C'est clair que lui, il est dans sa zone présentement. Et ça va peut-être faire en sorte qu'on va retarder ou s'assurer qu'Eminem soit vraiment prêt lorsqu'il sera en mesure de jouer. Faut pas enlever la part d'Eminem en défense, par contre. Je sais que c'est pas un gars qui frappait bien, là, mais que son jeu en défense ne faisait pas de doute. Mais, belle énergie, tu sais. Je trouve que c'est les joueurs de soutien, on l'appelait soutien en début de saison, les Clement, les Barger, tu sais, ces gars-là amènent une belle énergie à l'équipe, alors que parfois on avait l'impression là, que c'était lourd, tu sais, les problèmes de Santander au bâton, les problèmes de Vlad en début de saison, Bichette qui est la dernière année de son contrat, puis là tu sais pas trop si les Blue Jays vont. Alors là, tout le monde semble avoir un peu plus de plaisir à jouer. Springer est aussi un grand responsable de cette énergie positive que l'on voit là chez les Blue Jays.
Ouais. Marc, on va parler d'un autre qui a connu une bonne semaine, c'est Abraham Toro. Il a gagné du galon à un point que Nick Sogaard jouait beaucoup au premier but à la suite de la blessure de Kansas. Il a été retourné dans le baseball mineur. C'est bon signe pour Abraham Toro. Au cours de ses 10 derniers matchs, pour 400. Pas compliqué, là. Connu un bon week-end. On parle pas de sa tenue au monticule non plus. Donc, dans son cas, Marc, ça s'est bien déroulé. Gagne du galon. Et force les Red Sox à le garder.
Mais une chose que tu n'as pas dit, Alain, c'est que là, tu parles de 400. C'est super, vraiment, des présences de qualité. On blague un peu avec sa présence au monticule, mais tu veux ses jeux défensifs? Écoute, au premier but, il a fait un jeu, là, ma foi, spectaculaire. En plongeant pour capter une balle, il a réussi à garder le bout du gros orteil sur le coussin. Le sourire, l'importance de ses coups sûrs. Tu vois que le gars, il fait partie de la gang, là. Tu vois la réaction dans l'abri sur ses jeux en défense, sur ses coups de bâton. Il fait partie de la solution présentement là, chez les Red Sox de Boston. Puis on en a parlé la semaine dernière, puis même auparavant. Moi, j'admire beaucoup Abraham Toro parce que c'est pas facile ce qu'il a vécu dans les dernières années, des hauts et des bas. Puis on a parlé du fait que quand tu touches aux ligues majeures, ben tu sais. Alors lui, il est en train vraiment de saisir l'occasion de démontrer ce qu'il vaut pour une équipe. Puis c'est ça, sans penser que... Tu sais, les Red Sox ont été un peu cette équipe-là, une organisation dans les dernières années, Alain, qui mettait en valeur cette espèce de joueur de soutien d'excellence.
Oui, oui.
Ben là, ils l'ont. Ils l'ont, là, présentement, avec Abraham Toro.
Ben, ils aiment beaucoup, comme tu regardes l'ensemble des équipes, Marc, les Dodgers, les Red Sox, c'est un bon exemple. Là. On a une multitude de joueurs qui peuvent jouer partout. Donc, ça aide énormément là, l'instructeur là, à
frappeur ambidex en plus.
En plus. Donc, écoutez, les Red Sox, on aura l'occasion d'ailleurs de voir ce lundi. Marc, on va terminer avec une scène. Moi, j'ai pas vu ça souvent. Ronnie Simon, c'est un petit joueur qui a été rappelé. On était à ses débuts avec les Marlins de Miami. Là, on l'a mis au deuxième but et il a commis trois erreurs dans les premières manches. Vraiment, là, en début de match, on a changé de lanceur et lors du changement de lanceur, il était en pleurs. C'est pas compliqué, là. Il se donnait toute la responsabilité de ce qui arrivait. Que ce soit vrai ou non, Marc, bon, ça se peut que tu connaisses un mauvais match. C'en était un en défense pour Ronnie Simon. Depuis, il a été retiré des 40 joueurs. Ce serait peut-être arrivé quand même. Mais toujours est-il qu'on l'a retiré du match. Marc, émotivement, il était plus en mesure de continuer, lui.
Alain, ce qu'on réalise pas, Alain, c'est la pression que les joueurs se mettent sur eux-mêmes. Mm-hmm. Tu as l'occasion de jouer dans le baseball majeur. Tu sais, puis il faut se le dire, là, les gars qui sont dans les ligues majeures, ils ont joué au baseball depuis qu'ils sont tout petits. Là. Je veux dire, c'est leur vie là, de jouer au baseball. Tu veux atteindre les grandes, tu sais, tu veux pas manquer ta chance. Tu te mets beaucoup de pression. Et en te mettant autant de pression, et là, tu arrives sur la grande scène, puis là, ben, tu le sais qu'il y a des millions, parce que c'est pas juste les gens dans les estrades. Là, tu vas avoir les reprises sur les réseaux sociaux. Tu sais, je veux dire, il y a un impact énorme. Puis là, ben, le gars fait un... Tu sais, lui pense qu'il a vraiment fait un fou de lui, là. Alors que, tu sais, je veux dire, oui, ce sont des erreurs, mais tu sais, il a démontré de façon... Tu sais, qu'il était un très bon athlète. Il y a eu des jeux dans ce match-là qu'il a fait aussi, puis il a fait... Bon. Mm-hmm. Mais là, tout s'est écroulé. Puis, je reviens sur un commentaire que j'avais déjà fait sur Mike Schmidt qui avait dit, si c'était à refaire, Mike, qu'est-ce que tu ferais différemment? Puis, il avait dit... Je m'en ferais pas autant que je m'en faisais lorsque ça allait moins bien. Ouais. C'est ce que Mike Schmidt avait dit. Il dit, parce que tu vois qu'à, t'sais, le match est fini, c'est plate, mais on passe à autre chose le lendemain. T'sais, c'est facile à dire après avoir vécu ça. T'sais, c'est pas toi qui as commis trois erreurs, mais on s'en fait beaucoup. On s'en met beaucoup. Mm-hmm. Moi, j'avais, personnellement, là, je vais le dire, là, c'était un problème que j'avais. Je m'en faisais beaucoup trop. D'ailleurs, les Dodgers m'avaient envoyé voir... à l'époque, il était un psychologue sportif pour dire « Hey, arrête de t'en mettre, là, ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Y a-tu quelque chose qui fait que tu te mets autant de pression? Non, je veux juste être bon, je veux juste performer, mais c'est que ça affecte ton jeu, ça affecte ton ta manière de penser. » Donc, dans ce cas-ci, Alain, tout s'est écroulé lorsqu'il y a eu cette conférence au Monticule, alors que lui, il a vu sa carrière probablement s'effondrer. Mm-hmm. Alors, c'est triste à voir, mais c'est la réalité. Il ne faut pas penser là, que tu es dans la Ligue majeure, puis t'es parfait, puis il n'y a pas de nervosité, puis tout est beau, puis je suis là, puis je gagne de l'argent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Là. Tu veux bien faire, tu t'en fais beaucoup, puis tu t'en fais beaucoup trop. C'est clair quand tu t'en fais trop. Et ceux qui sont capables de gérer ça un petit peu mieux, ben ils sont capables de passer au travers à ce moment-là, alors que d'autres sont... Puis tu sais... On a parlé d'Abraham Taureau tantôt, où je te disais que j'admirais ce gars-là. On pourrait parler d'Édouard Julien. Édouard Julien, là, goûté aux ligues majeures, gros prospect, retourne dans les mineurs, revient, va bien, oups, va moins bien, retourne dans les mineurs. Puis, c'est un va-et-vient qui est tellement difficile. Puis là, Édouard Julien, ben, se retrouve, il est pas en train de briser la ligue au niveau 3A. Fait que là, il voit un Clemens qui va bien au niveau des ligues majeures, puis là, t'as l'impression que tu retourneras jamais dans les ligues majeures. Fait que là, faut que tu t'enlèves ça de la tête, faut que tu dises que t'es encore bon, puis que t'es encore capable d'aider. Puis là, t'es 0 en 4, puis là, tu regardes le sommaire au Minnesota, puis Clemens, il est 3 en 4 avec le point qui fait, le coup sûr qui fait gagner son équipe. C'est pas facile, parce que ces gars-là vivent, là, mentalement, Alain, c'est dur, là, puis... Fait que, tu sais, il faut prendre une grande respiration, faut faire le vide. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vivre dans le moment présent. Et t'as pas le choix de rester là. Si tu vis dans le passé, j'aurais donc dû, c'est pas mieux. Puis si tu t'essaies de te projeter dans l'avenir et dire, ben moi, je suis pas bon puis je retournerai jamais, ben tu comprends que l'entrevue qu'on avait fait, l'entretien qu'on avait fait avec Jean-François Ménard avait été très juste là-dessus. Puis c'est pas facile ce que les gars vivent. Se mettre de la pression, se mettre beaucoup, beaucoup. Ça en met beaucoup sur les épaules. Puis parfois, ben écoute, c'est une situation qui est incontrôlable.
Écoute, ce que tu viens de dire, Marc, ça pourrait s'appliquer dans la vie de tous les jours.
Absolument.
C'est compliqué, là. On pourrait faire ce segment-là dans une émission matinale quelconque, là. On pourrait peut-être la proposer, mais toujours est-il que vous l'aurez entendu et vu sur Compte Complet en premier. Bon, c'est le temps maintenant de vous présenter l'horaire de la semaine à RDS. Une présentation de Lester, c'est le maître du smoked meat et des hot dogs depuis 1931. Que ce soit en famille, un barbecue, devant un match, un festin. Bref, prayez-vous la traite avec Lester qui est toujours au rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. Trois matchs cette semaine, on verra beaucoup de Boston et de Yankees. Boston, les Red Sox, très populaires au Québec, on le sait. Ils seront au Fenway Park. C'est des matchs assez spectaculaires habituellement au Fenway Park. On verra Mike Trout ce lundi, les Angels qui vont visiter les Red Sox. Et Abraham Toro, il y a des bonnes chances qu'il soit au premier but pour ce match. Match présenté à RDS à compter de 19h. Deux jours plus tard, ce sera à New York. Les Yankees de New York contre les Guardians de Cleveland qui tiennent leur bout malgré un paquet de défis. Match présenté en direct du Yankee Stadium à RDS également, aussi à 19h. Puis Marc, on va finir ça avec, ben oui, les Yankees contre les Red Sox de Boston en direct du Yankee Stadium de New York. Première série entre les deux équipes cette année. Il aura fallu attendre jusqu'au mois de juin. C'est un match qu'on va vous présenter ce dimanche à RDS 2. J'ai hâte de voir, moi, ce qui va arriver entre ces deux équipes-là. Il y a peut-être des choses qui vont arriver en cours de semaine, évidemment, puis on sera là pour vous présenter le tout. J'espère que ce balado vous a plu. On se souhaite tous une très, très bonne semaine. Merci, Marc. Merci à Martin Villeneuve, à La Technique, pour enrober ce beau balado comme à chaque semaine. Salut tout le monde, à la prochaine.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.